La vagabonde, le monde est sur vos ondes.
Camille en service civique à la radio Info RC. Ce mois de novembre, vous avez peut-être entendu parler du mois du doc, le mois du documentaire qui se déroule partout en France et même dans le monde entier. Le monde c'est bien beau, mais nous sommes en Ardèche et en Ardèche il y a Tank, une plateforme qui propose des documentaires. Pour mieux en parler, je reçois aujourd'hui Jérémy Joran. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlerons d'abord de comment sont choisis les films et ensuite nous aborderons les films présentés sur Tank un par un. Pour commencer, quel est ton rôle au sein de Tank ?
Alors mon rôle au sein de Tank, mon titre disons, c'est responsable de l'éditorial et de la programmation. Je suis une des trois têtes de la direction artistique de Tank et mon rôle est de travailler d'une part sur le contenu de la plateforme, c'est-à-dire tout ce qui entre en ligne sur la plateforme, les textes, les images, la manière de présenter les films pour les abonnés, et par ailleurs de constituer aussi la programmation des films, c'est-à-dire de participer au choix des films qu'on fait rentrer en ligne et de coordonner surtout toutes les propositions de films que nous fait notre comité de programmation. Alors peut-être que je développerai ça un peu plus tard, la manière de fonctionner. Peut-être que je peux aller plus loin sur ce que c'est que Tank.
Ouais.
Donc effectivement, Tank, c'est une plateforme sur abonnement de documentaires qui est basée à Lussas, en Ardèche. Lussas, qui est un petit village, mais qui depuis une quarantaine d'années est un peu un centre du cinéma documentaire en France, notamment avec les états généraux du documentaire qui se déroule en août tous les ans. On est basé à Lussas, c'est une coopérative, une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est donc sur le territoire ardéchois. Et en tant que coopérative, c'est d'ailleurs une entreprise dans laquelle on peut participer en tant que personne, que ce qu'on soit abonné ou non, prenant des parts et donc en participant à la vie coopérative de Tank. En tant que plateforme, notre travail, c'est de montrer des films à nos abonnés. Et par ailleurs, une autre partie importante de notre mission, c'est de participer à la fabrication de films documentaires, donc de s'inscrire dans l'économie du cinéma documentaire, en intervenant sur une quinzaine de films par an en production, c'est-à-dire qu'on apporte un apport numéraire en argent sur certains films et un apport de matériel. Parce qu'à Lussas, on a les studios de Tank. Donc les studios de Tank, c'est toute la chaîne de post-production, donc tout ce qui se fait après le tournage d'un film, que ce soit le montage son, le mixage, l'étalonnage. Et voilà, on a toute une installation dans laquelle peuvent venir les équipes. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on participe à la fabrication de films, donc qu'on promeut la fabrication de films documentaires tels qu'on les conçoit.
Et avant d'aller plus loin, je voulais poser la question un peu farfelue, mais qu'est-ce qu'un documentaire finalement ?
Alors un documentaire, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'écrire des livres entiers sur ce que c'est qu'un documentaire pour réussir à en avoir une définition. On en a tous et toutes, je pense, une idée dans la tête, selon ce qu'on connaît de la télévision, d'autres plateformes. On en a déjà vu. En gros, je pense que pour la plupart des gens, c'est tout ce qui n'est pas de la fiction, avec un scénario, etc. La particularité de Tank, c'est que nous, on définit notre plateforme comme une plateforme de cinéma documentaire et, pour être encore plus précis, de documentaire de création. Et quand on dit ça, on implique aussi le fait que ce sont vraiment des auteurs, des cinéastes qui réalisent ces films et qui, de la manière qu'ils veulent, s'impliquent dans la réalisation des films et impliquent leur subjectivité, leur regard subjectif. Ça peut aller du fait de faire un film qui soit très intime, un film familial où on se met vraiment en scène en tant qu'auteur, mais ça peut aussi être le fait de choisir vraiment la forme avec laquelle les cinéastes vont s'exprimer. Ce qui peut donner, nous, ce qu'on montre, on peut montrer des très courts-métrages comme des très longs-métrages. On peut montrer des films qui sont des films d'animation parce que les cinéastes ont décidé que c'était la meilleure manière de parler du sujet dont ils voulaient traiter. On peut montrer des films qui sont quasi expérimentaux, des films qui sont quasi de la fiction. Voilà, donc ce sont des formes auxquelles on n'a pas forcément très facilement accès ailleurs que sur Tank. C'est un peu une des spécificités de la plateforme de montrer des films qui sont difficilement visibles ailleurs. Donc des formes très variées, mais qui peuvent aussi être des grands récits avec des personnages, de l'émotion. Voilà, donc c'est des films qui sont parfois sortis en salle, parfois pas, parfois qui sont juste allés dans des festivals, etc.
T'as un peu répondu à la question, mais pourquoi créer une plateforme dédiée au documentaire ?
Alors la plateforme, elle s'est créée il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans, en 2016, avec, oui, c'est effectivement un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a tout un pan de création cinématographique qui a une vie très courte, finalement, des films qui, bon, il y en a certains qui sortent en salle, qui sont un petit peu vus, il y en a certains qui sont aussi sur des télévisions nationales et qui sont pas mal vus, il y en a d'autres qui sont visibles dans les festivals spécialisés, les festivals de cinéma documentaire, et il y en a d'autres qui sont encore moins vus que ça. Donc l'idée, c'est que en créant une plateforme de diffusion pour ces films-là, et ben ça encourage la visibilité de ces films et ça encourage aussi un peu toute une économie. Dès le départ, la plateforme a aussi été créée dans cette idée-là de participer à l'économie en France du cinéma documentaire, donc d'où l'idée de participer aussi à la fabrication et à la production des films. Et c'est aussi, alors ça c'est du point de vue de l'industrie, disons, mais du point de vue des abonnés, du point de vue de toute la population française et luxembourgeoise et suisse et belge, parce qu'on diffuse en Europe francophone. De ce point de vue-là, c'est aussi très important à notre sens que des films de création, de documentaires de création, puissent être vus pour donner accès à un langage audiovisuel qui est assez rare et tranche avec le langage dominant.
Concernant ton travail de programmation chez Tank, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous arrivez à vous décider sur un film ou un thème pour les escales de Tank ?
Alors, vaste question. Sur Tank, on propose 5 à 6 films par semaine, tous les vendredis, des nouveaux films qui entrent en ligne pour les abonnés. Et donc, il s'agit pour nous de constituer une grille de programmation qui fasse arriver ces 5 à 6 films toutes les semaines. Donc on travaille par semestre en ce moment, et par exemple là en ce moment, en novembre, on est en train de fabriquer toute la grille de programmation du premier semestre 2025 jusqu'à juin, début juillet. On travaille avec un comité de programmation qui est un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont extérieures à Tank, à l'entreprise Tank, et qui nous font remonter des idées de films qu'ils ont envie de montrer. Ce sont des gens qui sont des professionnels du cinéma, qui sont soit des gens qui programment déjà dans les festivals, soit des techniciens. Et donc ces personnes-là nous font remonter leurs idées. Et c'est avec cette masse de films qu'on étudie qu'on constitue le plus gros de la programmation de Tank. Après, tu as parlé des escales. Les escales, ce sont des moments particuliers dans la grille de programmation qui sont des réunions de films, de 3 à 6 films, qui réunis proposent une réflexion sur tel ou tel sujet et à qui, et ce sont des programmations qui sont confiées à des personnes encore extérieures à Tank et au comité de programmation de Tank. Donc on s'adresse parfois à des associations de diffusion de films un peu partout en France, notamment à tout le réseau de ce qui s'appelle la Cinémathèque du documentaire, et on fait appel à eux, et en fonction de leurs envies on va décider de parler de tel ou tel sujet dans les prochains mois. Parfois c'est nous-mêmes qui arrivons avec de sujets, parfois c'est le travail de ces personnes à qui on s'adresse qui nous proposent eux-mêmes des sujets qu'on travaille ensemble pour choisir les films.
Est-ce que vous avez des critères de sélection pour les films ?
Les critères de sélection, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre définition du documentaire de création. Il ne faut pas que ça s'éloigne trop de notre ligne éditoriale, ce que j'ai essayé de définir un petit peu. Donc on va très rarement montrer des pures fictions, mais ça nous arrive. On va très rarement montrer des films qui sont vraiment des films uniquement journalistiques, produits pour des émissions de télévision, des choses comme ça. Et sinon, entre ces deux extrêmes, si je puis dire, on est très très libre, parce que justement, étant une plateforme, on peut très bien mettre un film de 4 minutes qui sera beaucoup vu, parce que nos abonnés sont friands de courts-métrages, et on peut très bien mettre des films de 120 minutes aussi. Ce vendredi, il y a un film très longs qui arrivent en ligne aussi, et c'est important de les proposer aussi. Et sur ces escales, notre idée, c'est aussi qu'il y ait une variété de films. Donc il peut y avoir, toutes les semaines, on essaye de mettre un film qui soit relativement facile d'accès, avec un personnage fort, un récit, toute une histoire bien développée, ce qu'on appelle nos coups de cœur. Et à côté de ça, dans la même semaine, on aime bien qu'il y ait un équilibre aussi, avec des formes différentes, avec éventuellement des courts-métrages un peu plus essais, disons, donc des formes plus expérimentales, plus qu'on a moins l'habitude de regarder. Tout notre pari dans la programmation de Tank, c'est que en entrant, en s'abonnant et en entrant avec un film qu'on aurait, que je sais pas, qui serait sorti au cinéma récemment, relativement facile d'accès, et ben nos abonnés puissent aller errer un peu sur la plateforme. On a 50 à 60 films visibles en tant qu'abonnés à un instant T, errer sur la plateforme et aller découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais découvert autrement.
Donc on trouvera forcément quelque chose à notre goût.
C'est l'idée. Oui.
Et maintenant, pour parler du mois documentaire, depuis quand existe le mois du documentaire ?
Alors le mois du documentaire, il existe, si je me trompe pas, depuis 24 ans, depuis 2000. C'est une manifestation qui est organisée par une association qui s'appelle Images en Bibliothèque, qui œuvre pour la diffusion de films documentaires dans tout le monde de la lecture publique, donc des médiathèques, des bibliothèques, qui met en relation ces institutions avec les films. Donc par différents biais. Et le mois du doc, donc le mois de novembre, systématiquement, c'est le mois du doc. Images en Bibliothèque travaille avec les médiathèques partout en France pour organiser des événements, notamment des projections de films documentaires un peu partout. Alors je sais pas, mais je pense qu'il y en a des centaines, voire plusieurs milliers, je ne sais pas, des événements pendant tout le mois. Je sais que même à Aubenas, il y a eu une projection récemment, la semaine dernière. Il se passe des choses à Valls aussi.
Montpeza, il me semble.
Voilà, donc en Ardèche, il se passe aussi des choses. Donc il faut aller sur le site qui s'appelle moisdudoc.com pour aller voir ce qui se passe. Et voilà, et après, les médiathèques en question sont accompagnées par Images en Bibliothèque, mais libres d'organiser un peu les événements qu'ils veulent.
Et depuis quand Tank est partenaire du mois du doc ?
Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Mais comme ça, je dirais que c'est depuis la création de Tank, parce que le mois du doc, c'est quand même un événement important en France autour du documentaire. Et donc, c'est quelque chose que dans le monde du documentaire, on suit d'assez près.
Cette année, le thème, c'est « À l'écoute du monde ». Est-ce que vous pourriez expliquer un peu le sujet ?
Oui, alors le thème du mois du doc, si je ne me trompe pas, c'est « Petite planète », ce qui est... une dénomination assez large pour qu'en fait on puisse organiser énormément de choses différentes. Et à l'écoute du monde, oui, en effet, à l'écoute du monde, c'est la programmation que nous, sur Tank, on a faite en écho avec le mois du doc. Et c'est donc une programmation qui a été faite au sein de Tank. C'est Eva Touran, ma collègue, qui s'en est occupée, avec Dominique Rousselet, qui est médiathécaire à la médiathèque du Carré d'Art à Nîmes, qui s'est adjoint les services d'un enseignant-chercheur, enfin de maître de conférence qui s'appelle Vincent Deville, qui ont décidé de travailler sur comment le cinéma documentaire peut réussir à filmer la nature, disons, ou notre milieu, de manière sensible. C'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches de films qui apportent un regard qui ne soit pas dominant sur la nature, en partant du fait que les humains ont de tout temps eu un rapport de domination avec leur milieu, et d'exploitation de leur milieu, qu'une manière que peut avoir le cinéma de regarder la nature, ça peut être aussi une manière beaucoup plus sensible. Et donc ils ont choisi des films qui tentent de ne pas forcément avoir un regard d'humain comme ça, supérieur sur la nature, et qui notamment, ça s'appelle À l'écoute du monde. Et À l'écoute, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que ce sont des films qui font une grande part au travail du son et à ce que ça peut créer dans nos oreilles, de non seulement regarder le milieu qui nous entoure, mais aussi et surtout de l'écouter. Donc les six films qui font partie de cette sélection donnent une grande importance au travail du son.
À quel public cette programmation s'adresse ?
À tous nos abonnés et à tous ceux qui voudront bien s'abonner. C'est toujours très difficile de définir vraiment un public, à mon sens. Nous, on a une petite idée des gens qui sont abonnés à Tank, mais notre idée, c'est aussi qu'on ne programme pas pour un public en particulier, mais qu'on essaye de s'adresser à tout le monde. Alors, si une grande partie de notre public est assez jeune, mais voilà, cette programmation à l'écoute du monde, comme toutes nos programmations, ne s'adresse pas spécifiquement à un public jeune. On sait que notre public est très intéressé par les questions d'écologie. Forcément, cette programmation-là résonnera vraiment avec nos abonnés. Mais je ne pourrais pas dire que cette programmation en soi s'adresse à un public. En revanche, peut-être qu'on peut imaginer que l'un ou l'autre de ces 6 films s'adresse plus spécifiquement à un public jeune ou un public écolo, etc.
Les films sont présentés sous forme d'escale sur la plateforme, comme on l'a dit. Celle concernant le mois du doc s'appelle donc « À l'écoute du monde ». Il y a 6 films présentés dans cette escale, ont-ils un lien particulier, si ce n'est le regard du monde, le regard sur le monde ?
Ce lien, oui, c'est effectivement ce qu'ont fait Dominique Rousselet et Vincent Deville, hein, c'est de réussir à montrer que grâce à une approche créative et artistique, on peut accéder à un rapport à notre monde qui soit différent du rapport, du rapport de domination ou de utilitaire qu'on peut avoir avec ce monde. Il y a certains films qui sont programmés là qui montrent du bétail, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas des animaux d'élevage. Voilà, ce ne sera pas forcément des films sur l'élevage ou sur la manière que l'humain a d'utiliser les animaux, mais ça peut être aussi des films qui sont presque du point de vue de ces animaux-là. Donc c'est de décaler ce regard et cette oreille. Je répète que c'est bien à l'écoute. C'est de décaler cette oreille pour avoir un rapport plus sensible avec ce monde qui nous entoure.
Quels sont ces films programmés ?
Alors je peux les citer.
On pourra y revenir dessus.
Et ben, ce sont des films qui viennent d'un peu partout. Pour aller un peu rapidement, on a un film états-unien, je ne sais plus de quelle année il est. Il doit être des années 80. Location, voilà. Des films français qui se passent soit dans le massif du Mont Blanc, soit on ne sait où, filmant des insectes. Au Pays Basque, en France encore, avec une rivière dans le film Méandre ou La rivière inventée, et dans une forêt lituanienne, un film de Mindaugas Survila qui s'appelle Dans les bois, qui est très très beau.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur chaque film avant de revenir plus en détail ?
Je peux commencer justement sur ce film Dans les bois. Donc Mindaugas Survila, c'est un réalisateur qui est en fait botaniste au départ et qui toute sa vie a eu envie de filmer cette forêt-là et qui s'y est intéressé de près, de tout près, de très 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 près. Et il a passé énormément de temps à être attentif à ce qui pouvait s'y passer et à réussir à capter des images absolument incroyables de ce qui se passe dans cette forêt, qui est une sorte de forêt, je ne sais pas si on peut appeler ça une forêt primaire, mais en tout cas dans laquelle il y a une vie sauvage importante. C'est assez rare qu'un film, pour le coup, c'est un film animalier, un documentaire animalier. On connaît bien ce genre, mais souvent, dans les documentaires animaliers, il y a aussi une manière de mettre en scène les animaux qui est un petit peu anthropomorphisée, c'est-à-dire qu'on leur prête des intentions. Et là, c'est vraiment un film animalier sur la vie sauvage des animaux sauvages, sur leur rapport, sur comment on les entend dans la forêt, ce que c'est que de vivre dans la forêt, quoi, de tout près. Je sais pas, je peux enchaîner avec un très court métrage qui s'appelle Éphémère, qui est vraiment très étonnant où on apprend vraiment, enfin moi j'ai vraiment appris des choses juste en voyant ces insectes qui s'appellent les éphémères et que je ne savais pas, mais ils ont une longue vie en tant que larves et leur vie éphémère, c'est-à-dire avec des ailes et dans les airs, dure. J'ai plus les données scientifiques, mais je dirais que ça pourrait durer une journée. Et en fait, le film montre cette explosion de vie tout d'un coup qui s'arrête très très vite. C'est un film très simple avec un travail du son très important aussi. Et voilà, qui, juste en nous montrant quelques images dans un court-métrage, arrive finalement aussi à nous documenter et à nous impressionner. Après, on a des films qui sont plus, qui ont plus un discours écologiste, disons, notamment dans Méandre ou La rivière inventée, qui là est une sorte de film d'aventure. C'est une bande d'amis qui décide de descendre en radeau une rivière dans le sud de la France, du côté de Montpellier. C'est pas juste des vacances. C'est la co-réalisatrice et chercheuse. Le co-réalisateur Émilien de Bortoli. La réalisatrice s'appelle Marie Luçon et le co-réalisateur Émilien de Bortoli, lui, est musicien. Et donc, ils ont fait ce film ensemble et c'est un film qui parle de la restauration des rivières, donc dans la manière dont les humains aujourd'hui, après avoir essayé de domestiquer le cours naturel des rivières, eh bien, revient à cette idée qu'il faut lui rendre son lit originel. Et donc, le film explore vraiment cette idée-là. Et explore de très près aussi toute la vie dans la rivière, dans l'eau, sur les berges, etc.
Donc il y a un côté un peu scientifique dans
ouais,
le film. Oui,
c'est une approche scientifique. Et comme je disais aussi, un peu film d'aventure, parce qu'on les voit quand même sur leur radeau faire leur petite aventure. De la rivière, on passe au massif du Mont-Blanc avec un film vraiment étonnant qui s'appelle Pacheux de Camille Lobé. Et on sait que les montagnes aujourd'hui s'écroulent en haute montagne dû au fait que je crois que ça s'appelle le pergélisol, je ne sais plus. En tout cas, la glace qui tient les roches en altitude, la glace qui, en temps normal, jusqu'aujourd'hui, disons, ne fondait jamais, fond. Et donc, des pans entiers de montagnes se décrochent. Et donc, ça change vraiment complètement le paysage. Et ça change notamment le travail des gens qui sont soit guides de haute montagne, soit des gens qui sont praticiens de la haute montagne. Et voilà, donc ce film Pacheux, c'est du patois, ce mot-là. Ça veut dire un chemin, quelque chose comme ça. Ce film, il fait parler des professionnels de la montagne, justement, et il s'intéresse à la manière dont ils regardent, dont ils foulent du pied ces cailloux qui sont en train de tomber, finalement. Et il les fait parler beaucoup dans le film. Et voilà, c'est un film qui s'intéresse beaucoup à la manière qu'on a de formuler les choses quand ce qu'on a sous les yeux est en train de s'écrouler.
Et il y a un très beau travail du son sur la montagne, oui. Sur les glaciers qui se détachent aussi.
Absolument. On n'entend pas la glace qui fond, on entend l'effet de la glace qui fond. Et c'est quelque chose qui, en allant en montagne qu'on peut aussi expérimenter et voir. Et voilà, j'ai pas complètement fait le tour. Le film des années 80 s'appelle The Sky and Location, qui est un film de Babette Mangold, donc qui se déroule dans l'ouest des États-Unis, où elle part dans les paysages de l'ouest des États-Unis pour les observer, pour voir. Alors, ce film en pellicule, c'est très très beau. Pour observer ces paysages qui, notamment, contrastent avec les paysages qu'elle connaît, parce qu'elle a des origines jurassiennes. Et donc, elle parle de ces paysages, mais ce qui est très étonnant, enfin, c'est que même si le film a été fait dans les années 80, elle est déjà très consciente du fait que ces paysages qui ont l'air comme ça, complètement immobiles, en fait, sont en train de vivre, éventuellement en train de s'écrouler aussi, dû à l'activité humaine. Donc, par en dessous, disons, un film qui a un discours écologiste presque avant l'heure. Enfin, il y avait déjà des gens qui parlaient de ça depuis les années 70, mais voilà, par l'observation de ce paysage, elle tient déjà ce discours dans les années 80.
Dans Éphémère, Yuki Kawamura enregistre sur le vif une éclosion de larves éphémères. Pourquoi voir le vivant qui est aussi petit ? En quoi c'est important ?
Je ne sais pas si c'est important, mais je trouve que c'est toujours intéressant de réussir à voir les choses avec lesquelles on cohabite, finalement. Parce que, si je ne me trompe pas, ce film a été tourné en France, donc ce sont des choses avec lesquelles on vit tous les jours et dont on n'a pas forcément idée. Et parfois, la caméra et le micro peuvent nous permettre de voir et d'entendre des choses dont on n'a pas conscience dans notre vie, avec nos seuls yeux d'humains et nos seules oreilles d'humains.
Pouvoir s'émerveiller sur le vivant, les insectes. Alors,
je ne sais pas si c'est forcément s'émerveiller, mais c'est connaître déjà.
C'est déjà une bonne épreuve. Dans Gorilla, pourquoi Madi Babur Getirez nous fait vivre la vie des animaux par leur regard et leur souffrance ?
C'est pareil, j'ai du mal à répondre à la question du pourquoi. En regardant un film, moi, je me pose la question, ou en tout cas, je ressens ce que je ressens. Et c'est ce qui importe finalement, c'est l'effet intellectuel ou émotionnel que peut faire le film à sa réception. Mon sentiment en regardant Gorilla, c'est que justement là, la question du décalage par rapport au fait qu'on n'est pas forcément en train de regarder avec des yeux d'humain, mais on met beaucoup les animaux au centre. Et leur vécu, et leur mort notamment, parce que le film s'ouvre avec la mort d'un animal. Je trouve qu'il fait ressentir un petit peu l'épreuve physique que ça peut être, la tonte d'une brebis, l'attente d'un chien au soleil, qui fait ressortir un petit peu des sensations comme ça. En plus, c'est tourné en pellicule, et donc ça donne aussi une belle matière et quelque chose d'assez sensuel dans ce film, même qui peut être un peu dur au début, effectivement.
Et on voit très peu les humains aussi dans le film. Oui. Ils sont très peu apparents. Pacheux, Camille Lobet parcourt le réchauffement climatique d'une manière inédite. Nous ne voyons pas, mais entendons la montagne. Pourquoi passer par le son pour nous montrer ce désastre ?
Alors, il y a une manière de... Dans mon souvenir, dans le film, il y a un intervenant, qui est un guide, il me semble, qui parle du bruit qu'il entend alors qu'il est suspendu à une paroi. Et... où il entend vibrer le caillou, quoi, vibrer la roche. Et donc, c'est peut-être d'abord par l'oreille et par l'écoute que va arriver l'écroulement. Peut-être que c'est ça. Et je pense que l'attention que peut avoir une personne qui marche en montagne ou même qui marche en forêt ou n'importe où, c'est en entendant quelque chose qu'on va se retourner. Donc, passer d'abord par le son, c'est peut-être effectivement retranscrire une manière qu'on a de vivre notre milieu, de vivre dans notre milieu.
Méandre ou la rivière inventée, quand la nature parle aux humains, dans ce film, c'est une bande d'amis qui descend une rivière. Sur fond d'explications scientifiques, ce choix de mélange les deux n'est pas anodin. Pourquoi cette méthode de communication à propos de la rivière, à ton avis ?
Je pense que ce film, c'est un peu ce que je disais en le décrivant, c'est qu'il nous entraîne dans une exploration scientifique grâce à des motifs un peu de films, un peu de films de bande de copains. On est quatre amis et on décide de passer nos vacances à descendre une rivière. C'est donc ça nous entraîne un petit peu dans le récit.
C'est décrit comme un road movie.
Ouais, un river movie, quoi. C'est, oui. On descend la rivière avec eux et ça fabrique... je pense que ça, c'est un choix d'une manière de raconter une histoire qui est originale, qui est vraiment le choix qu'ont fait les deux cinéastes de partir dans cette histoire grâce à ce cheminement le long de la rivière et qui nous permettra après dans le film de faire intervenir des explications ou des réflexions scientifiques.
Dans les bois, donc le nom du film, on voit la forêt dans beaucoup de films, de livres et d'art même. C'est l'une des premières choses qui nous vient quand on pense à l'environnement. En quoi le film de Mind Dogas sur Villa change-t-il la donne dans tout ceci ?
Mindaugas sur Villa, je sais, je parle pas lituanien non plus, donc peut-être que ça se dit pas du tout comme ça. Effectivement, la forêt, ça fascine. Et d'ailleurs, il lui a fallu beaucoup de temps pour réussir à faire ce film. Je pense que la forêt, ça fascine parce qu'elle cache plein de choses qu'on connaît pas et qu'on a envie de connaître ou pas, et dont on a peur aussi. Moi, je passerai jamais une nuit tout seul en forêt. Cette exploration-là, enfin, je pense que c'est assez classique de vouloir explorer l'inconnu et de découvrir des choses qui se cachent derrière les arbres, derrière les buissons, dans la terre, dans les feuillages. Et c'est vraiment cette idée-là qui préside à ce film-là.
On a fini la présentation des films. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter pour la fin de...
Non, bah on a oui. Enfin, là, on a effectivement parlé de cette programmation. Donc, qui est entré sur Tank il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Je voulais juste dire que c'est tous les vendredis qu'il y a des nouveaux films. Et donc, chaque vendredi, il y a une programmation différente, qui peut être une programmation thématique comme cette escale-là, mais qui peut être, comme cette semaine, des 6 films qui sont complètement... Enfin, qui sont disparates, avec des formes très différentes. Et que, voilà, donc je sais que chaque vendredi, il peut y avoir un peu cette surprise de ce qui va arriver sur Tank, et on vous invite à vous connecter, ne serait-ce que pour regarder un petit peu tous les films qui sont disponibles en ce moment.
Tank, d'ailleurs, propose, à l'occasion de ce mois documentaire, un mois offert, donc Vous pouvez vous renseigner en écoutant La Matinale sur Info RC. Pour plus d'informations sur les films, rendez-vous sur tank.fr et sur le site Le Mois du Documentaire.
C'est moisdudoc.com, il me semble.
Voilà. Pour les sorties physiques, donc en médiathèque ou en bibliothèque. Au revoir.
Merci, au revoir.